Et si nous poussions la porte d'une drôle et étrange boutique? Dans sa boutique Tic-Tic, Monsieur Madeleine, un infatigable voyageur, vend de drôles d'objets. Alors normalement, tu devrais tous les reconnaître. Certains sont magiques. Voici la boutique Tic-Tic, un livre de Frédéric Clément qui figure dans la grande bibliothèque Albin Michel Jeunesse. L'histoire est lue par Aurélie Nédé-Mogenet, bibliothécaire à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon. Voici la première partie de cette grande histoire.
Le 1er janvier de cette année, j'ai fait les comptes. J'ai pesé méticuleusement toutes les merveilles amassées au cours de mes voyages. Soupir de papillon, mouche de la Pompadour, sanglot de la petite sirène, houppette de Riquet, moustache du roi des rats, plume de Cupidon. Tout, absolument tout, fut mis dans la balance. Sous-pesé, annoté, étiqueté avec soin. En fin de compte, j'avais dans mon petit appartement le poids d'un cachalot et d'une baleine blanche en souvenir amassés ici et là, aux quatre coins de la terre. Il faut vous dire que j'ai l'âge des baobabs et des antiques tortues des îles Galapagos. Aussi, pour alléger mon exigulogie, ai-je décidé d'ouvrir une boutique. Avec vitrine, comptoir et mille et un tiroirs, un lieu unique qui enchantera les amateurs de souvenirs rares. Des escaliers de la butte Montmartre au sentier du Népal, on me nomme Monsieur Madeleine. Ainsi ai-je appelé très simplement ma boutique chez Monsieur Madeleine, marchand de souvenirs. En guise de portier, j'ai engagé le vieux Suzumushi, sage grillon du Japon, vénérable sonneur dans un temple de Kyoto. Monsieur Suzumushi, à l'arrivée d'un client, a pour tâche d'annoncer son entrée. Et précisément, ce récit commence par le délicat drelin de mon ami Grillon. À la première minute de la première heure du premier jour de l'ouverture de ma boutique, Monsieur Suzumushi sonna très joyeusement à l'arrivée d'une fillette fraîche comme la rosée, mollet de flamant rose. La demoiselle, Rosie, et dit qu'elle était la fille de la couturière, la voisine d'en face, et poursuivie de sa voix de roseau. Je cherche un souvenir très doux pour ma grand-mère qui s'ennuie le dimanche. Dans le tiroir des souvenirs sucrés, je pense avoir ce qu'il vous faut. Au grand bazar d'Ispahan, juste à côté de la mosquée du vendredi, un samedi, j'ai acheté un loukoum oublié, m'a juré le marchand, par l'inénarrable Scheherazade, lors de la millième de ses mille et une nuits. La sucrerie à peine grignotée fut soigneusement conservée par sa servante, puis escamotée un mardi par le voleur de Bagdad, qui la vendit le mercredi pour un bon prix, au trisaïeul de mon moustachu marchand du grand bazar d'Ispahan. Il suffit d'approcher la friandise de son nez pour qu'il vous monte alors une foule d'histoires à l'eau de rose. Idéal pour les amers dimanches de votre grand-mère. Pendant que j'emballais le souvenir sucré d'Ispahan dans un papier de soie, la fillette me demanda si la boutique de Monsieur Madeleine acceptait le troc. Avant ma réponse, Monsieur Suzumushi sonna un « oui », ferme et claironnant. Alors de son cartable, elle sortit un petit bout de crayon et y griffonna. Bon pour un mystérieux souvenir, signé Mademoiselle Rose. Mademoiselle Rose nous sourit et sortit comme un léger vent de printemps. À peine la porte refermée, un nouveau visiteur entra lentement, lentement, voûté. Yeux cernés, si lentement, si voûté, les yeux si tristes et si cernés que Monsieur Suzumushi n'osa sonner. « Je cherche, » dit le visiteur là, « un cadeau de Noël pour mon neveu nerveux, infatigable et fatigant, amateur d'aventures frénétiques. » Auriez-vous ça dans votre boutique? Dans ma boîte à souvenirs héroïques, j'ai en effet deux cadeaux parfaits pour les aventuriers. Gagné en deux coups de dés à un criquet anglais tenant tripot au fond d'une crique de Cornouailles, je peux vous proposer, seul, au fond de son sac, l'ultime, l'unique haricot magique de Jack. Une pincée de terre, trois gouttes de pluie suffisent pour l'escalade à vive allure de la tige du haricot au-delà des nuages. Suivi de la vertigineuse escalade du héros vers le repère du terrifiant géant, croqueur d'enfant. Cache-cache, course folle dans les greniers de l'ogre, sifflement de hache, claquement de langue, grognement de groin, craquement de mâchoire, cœur battant, frisson, fatigue et sommeil de plomb, garanti. Ou, si votre neveu a le goût des acrobaties, j'ai aussi un crin de Pégase. Aussitôt l'objet enroulé autour de la cheville, le fougueux cheval apparaît, aile déployée pour un décollage immédiat autour de la terre et de ses volcans. Au programme, descente en piqué dans le piton de la fournaise, Stromboli au galop, Etna au petit trot, puis voltige en plein cœur du cratère du Krakatoa. Enfin, après une douche sous les chutes du Niagara, Pégase, en vol plané, déposera votre neveu sur son lit. Épuisé, fraîche d'écume, calme, votre chère petite boule de nerf s'endormira comme un loir dans sa théière. Deux excellents choix pour un neveu infatigable et fatigant. Le visiteur voûté, par précaution, prit les deux, le crin et le haricot, empaquetés dans du papier cristal. Monsieur Suzumushi n'eut pas même le temps de tinter que, hop, 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 en quatre pas légers à cloche-pied, Mademoiselle Rose se campa devant le comptoir. Sur le bois, du bout de l'index, elle poussa trois trésors trouvés, dit-elle, dans une allée du château de Chambord. Un fil de fer blanc, un fétu de paille et un grain de poussière. Expert en féerie, sous la loupe, tout en adressant un clin d'œil à Monsieur Suzumushi, je déclarai reconnaître sans aucun doute trois authentiques trésors de peau d'âne. Un fil d'argent de sa robe couleur du temps, une paillette d'opale de sa robe couleur de lune, et l'une des microscopiques fées voltant en poussière d'or dans le sillage de sa robe couleur de soleil. Mademoiselle Rose me proposa alors de troquer ces trois bijoux contre un souvenir historique et touchant pour l'anniversaire de sa grande sœur, amoureuse et mélancolique. Je pense pouvoir faire le bonheur de votre sœur avec tout un lot de sanglots, si tendres, si poignants, si romantique que Barberousse, le cruel corsaire, en a versé des flots de larmes bleues, que j'ai d'ailleurs dans un tonnelet faisant partie du lot. Gros et toujours grelottant, j'ai le sanglot de Quasimodo, tombé comme un oisillon d'un nid du haut de Notre-Dame. J'ai la chance et la douleur d'avoir les sanglots d'argent si tristes et sinueux de deux escargots, à l'enterrement d'une feuille morte, et plusieurs pleurs sincères de leur ami Prévert, méticuleusement recueillis à la petite cuillère. Également dans le lot, il y a, prisonnier de son diamant, le timide sanglot d'un crapaud charmant, subitement changé en prince gluant. Avec grand soin aussi, j'ai veillé jour et nuit sur un duo de sanglots, tremblant de fièvre, le sanglot de minuit, solitaire et déchirant de la bête. Et dans une petite boîte en bois de rose, celui de la belle. En écho, roulé dans un pétale. Le dernier du lot est le sanglot le plus long, le plus monotone, avec volute de violon, lové dans un petit verre de bohème sifflé, dit-on, par Monsieur Verlaine lui-même. Tous ces lots déchirants et un peu déchirés furent dénichés par une amie Pie au creux d'un saule pleureur un jour de pluie sur l'île Saint-Louis en plein cœur de Paris. Monsieur Suzumushi enveloppa le tout dans un papier cadeau noué de velours noir. À peine Mademoiselle Rose dehors, son paquet lourd de larmes dans les bras, entra un petit bonhomme pressé, coquet. Si pressé, si coquet, que Monsieur Suzumushi n'eut pas le temps de tinter. Je cherche un souvenir romanesque, profond et rugissant comme un océan. Assurément, j'ai la hausse qu'il vous faut. Juste le temps de descendre de l'escabeau et voici la merveille. À l'intérieur de ce flacon, échoué à mes pieds sur l'île de Guernesey, se trouve un monument, un palais gigantesque, un labyrinthe bibliothèque. Unique et remarquable, avec escalier en colimaçon, murs tapissés de romans palpitants, comme les papillons d'Amazonie. Et puis à l'intérieur, au détour d'un couloir sous une lampe de chevet, un petit être cornu, à la mémoire éléphantesque, lit, grignote et prend des notes sur des bouts de papier, pliés, serrés aussi menus que des grains de riz. Oui, dans cette fiole d'eau de mer et d'Angleterre, voici le bigorneau savant, bibliothécaire et secrétaire secret de Monsieur Hugo Victor. Je sais de source sûre qu'il souffla au grand homme nombre de ses histoires palpitantes et rugissantes. Alors, pour une somme à peine plus grosse qu'un escargot de mer et d'Angleterre, ce souvenir de Guernesey est à vous. La monnaie tinta sur le comptoir. Monsieur Suzumushi compta. Je roulai le flacon avec soin dans du papier de riz. L'homme coquet sortit, content. J'étais en train de trier mes souvenirs de Fécamp quand, arrivée d'une grande diva, essoufflée, coiffée d'un chapeau, plein d'oiseaux chantant sa demande. Auriez-vous dans votre boutique la pièce unique, la trouvaille originale et pascale pour ma princesse de 5 printemps? Que diriez-vous justement de ce souvenir de l'île de Pâques, que m'a légué le fils du fils du fils du fils du cuisinier du capitaine Cook? À l'époque, l'île de Pâques était l'escale incontournable des cloches en pèlerinage pour Rome. Alors voici, de la manière de chasser les œufs de Pâques. Extrait du journal de James, maître coq du capitaine Cook. Affamé, épuisés de vol et de tempête, les cloches ont atterri avant-hier sur l'île dans un tintamarre d'enfer. Temps de repos. Puis, les ventres repus. Est venue alors pour la colonie la saison des parades et des amours. Sonaille et épousaille a crevé les tympans. Depuis des jours et des nuits, des centaines de cloches sonnent, tonnent, carillonnent à toute volée, réduisant en roches et géants de pierre en poussière. Puis soudain, l'île s'apaise. Les grosses cloches couvent depuis ce matin, calme et silencieuse. Cependant, approcher une cloche posée sur son œuf n'est pas chose facile. Car à l'écart veillent les grands mâles, mâles à barre de bronze, aux battants redoutables. Me vint alors l'idée de cette ruse. Me munir d'un orgue à bretelles et de poudre de cacao. Attendre une nuit noire avec un léger alizé. Disposer quelques pincées de poudre dans la paume et laisser le vent doucement souffler pendant que, très lentement, l'autre main tourne la manivelle de l'orgue mécanique. Musique ! Sursaut. Les cloches se réveillèrent, écoutèrent, reniflèrent. Irrésistible appel de Pâques, de Rome et du chocolat. Panique. Vite, sans réfléchir, la colonie affolée s'envola, laissant sur l'île, pêle-mêle, nids et œufs. Ainsi ai-je pu, après ma cueillette, régaler le capitaine et l'équipage de la succulente omelette aux œufs de cloche, en assistant sur la plage au bouleversant spectacle. Dans le soleil couchant, l'éclosion des clochettes sauvages, dorées comme des sous-neufs. J'ai l'honneur et le bonheur de vous proposer ce ravissant souvenir de l'île de Pâques. Une clochette à peine plus grosse qu'une corolle de muguet. La dame au chapeau chantant chanta son enchantement, accompagnée de son souvenir tintinabulant, si pépiant, si tintant, que je n'entendis pas la sonnette de Monsieur Suzumushi.
Mais que renferme encore la mystérieuse boutique de Monsieur Madeleine ? La suite arrive très vite. La boutique Tic-Tic est un album qu'il faut lire. Il y a de magnifiques illustrations à l'intérieur. Il est édité aux éditions Albin Michel Jeunesse. Tu peux retrouver ce podcast et tous les podcasts RTL dans l'application RTL ou sur tes plateformes favorites. À très vite pour la suite de l'histoire.